Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème « Vaincre par le rire ». La dernière fois, nous avions parlé de comment vaincre par les cris. Et on a vu qu'une église où il y a trop de silence, c'est pas une église vivante, c'est pas une église victorieuse, parce que Dieu même, il lui arrive de crier. Alléluia. Voilà. Et Dieu aussi exprime sa joie par le rire. Dieu se réjouit. Amen. Et Dieu, je suis désolé, quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours la figure serrée. Sinon, ça n'allait pas être intéressant de vivre au ciel. Lui-même, il a demandé à ses enfants, quand vous voyez les fêtes israéliennes, il a demandé à ses enfants de se réjouir devant sa face. Il y a même une fête où il demande vraiment aux enfants d'Israël de manger, de boire, de danser. Et lui, il aime voir ça, il aime voir ses enfants être dans la joie. Amen. Et quand la Bible te dit que la joie du Seigneur est ta force, si quelqu'un veut te voler ta force, qu'est-ce qu'il fait? Il vole ta joie. Amen. À partir du moment où il arrive à te voler ta joie, à te prendre ta joie, il a atteint 80%, on peut dire 95, on peut dire 90, on peut dire 80. Amen. Mais en tout cas, il a atteint ses objectifs te concernant. Parce que c'est vraiment dommage de voir quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui, qui a l'espérance d'un lendemain meilleur, et puis qui a une tête d'enterrement tous les jours. En fonction de la tête que tu as, on peut savoir si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. Parce que la foi va t'amener à te réjouir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui croit que ce qu'il veut arrive. Amen. Amen. Et si tu crois que ce que tu veux arrive, ben tu es dans la joie. Amen. Maintenant, tu es dans la tristesse que lorsque tu crois que ce que tu veux ne va pas arriver. C'est à ce moment-là que tu t'opères dans des pensées, dans des tourments, et que la tristesse envahit ton cœur. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque la tristesse envahit ton cœur, si c'est après un péché, c'est tout à fait normal. C'est que c'est Dieu qui te parle. Mais lorsque la tristesse envahit ton cœur alors que tu n'as pas péché, là, mon frère, c'est que c'est le diable qui a fait son entrée. Et une manière de résister à l'ennemi, c'est de garder sa joie. D'être dans la joie. Alléluia. D'être dans la joie. Vous savez, Isaac, le fils d'Abraham, Isaac, la traduction du nom Isaac veut dire rire, ou bien il rit. Vous savez pourquoi Abraham l'a appelé comme ça? Parce que lorsque l'ange de l'Éternel a dit à Sarah, l'année prochaine, quand je reviendrai, tu embrasseras un fils, elle a ri. Elle a ri. Et lui a demandé, mais pourquoi tu ris? Elle dit, non, je ne ris pas. Il y a quelqu'un ici, Dieu va te faire des promesses qui vont te faire rire. Dis pas amen. Amen. Moi, quand on m'a dit que j'allais prêcher l'évangile, je ne passe pas par cinq côtés. Quand on m'a dit, l'année prochaine, regardez ce jeune homme-là, l'année prochaine, il va prêcher l'évangile dans cette église-là, j'ai ri. Ah, moi, j'étais nouveau converti. Moi, les affaires de foi, tout ça, là, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que le Saint-Esprit était capable en un an de transformer la vie de quelqu'un. Je ne savais pas que Dieu pouvait me faire passer de l'échec à la victoire, pouvait me faire passer des ténèbres à la lumière. Mais en réalité, c'est en une fraction de seconde que ça se fait. Que tu changes catégoriquement de situation, de tout. Mais les effets se font progressivement. Mais le changement se fait radicalement. Et quand l'homme de Dieu a dit, regardez ce jeune homme-là, je vous dis que l'année prochaine, à cette même période, il va prêcher l'évangile dans cette église. Moi-même, je l'ai regardé comme ça. J'avais des dreadlocks jusque vers les épaules. J'avais deux boucles d'oreilles. J'avais, ce jour-là, je me rappelle très bien de comment j'étais habillé. J'avais mis un genre de tricot moulant, là, pour bien montrer mes biceps. Et puis un jean avec une paire de Santiago. Qui connaît les Santiago? Voilà, j'avais une grosse chaîne. Oh non! Et puis je regardais le gars. Je dis, mais celui-là, même si le ciel, même si on devait m'envoyer en stage au ciel, ce qu'il est en train de dire là, vraiment, je ne sais pas comment ça va faire pour se passer. Ça me faisait rire. Et quand il a dit ça, les gens aussi de l'assemblée se regardaient et puis riaient aussi. Parce que eux pour eux, si au moins il avait appelé l'assistant du pasteur, ou bien s'il avait appelé le frère qui soulève toujours la Bible du pasteur, ou bien s'il avait appelé celui qui vient tôt pour balayer la salle, là c'était tout à fait normal que l'année prochaine, ce frère-là puisse prêcher. Mais le gars là, on sait même pas d'où il vient. Il s'est converti il y a 2 mois. Quand tu le vois même, tu as peur. Quand j'arrivais à l'église, il y avait toujours une haie qui se faisait devant moi. De toute façon, que ce soit à l'église ou bien que ce soit dans les boîtes de nuit, j'étais toujours habitué à ce qu'on déroule le tapis rouge. Quand j'arrive, les gens se coincent comme ça sur le côté de l'escalier et puis je marche. Je dis ah. Donc après, la femme du pasteur elle-même, puis quand j'ai prêché après, elle s'est repentie. Elle m'a avoué que elle et puis quelques sœurs de l'église, elles étaient en train de chercher à voir comment elles allaient faire pour se débarrasser de moi. Parce que en plein culte, lorsque j'avais envie de fumer, je sortais, j'allumais ma cigarette, je fume, je reviens dans la salle. Et donc, quelqu'un qui fume, qui rentre dans une salle, vous sentez tout de suite qu'il vient de fumer. Donc, les gens me regardent, mais personne ne peut parler, même le pasteur. Personne ne pouvait parler. Et cet homme de Dieu, quand il est arrivé, vraiment, j'ai vu en lui quelqu'un qui avait la foi et quelqu'un qui croyait en l'impossible, qui croyait au miracle. Amen. Et tout de suite, j'ai embarqué. Je suis monté dans la barque. J'ai fait comme Pierre. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de marcher comme toi sur l'eau. Dès que Jésus lui a dit, viens, il est sorti en même temps. Il a commencé à marcher sur l'eau. Tu sais, le miraculeux, c'est quelque chose qui s'embrasse. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu rentres dans l'action. Automatiquement, tu décides que ta vie sera une vie surnaturelle. Alléluia. Et quand j'ai vu ces choses-là, j'ai dit non, cet homme-là, il y a vraiment l'onction de Dieu sur sa vie. Et je vous ai expliqué un peu des choses, des actes que j'ai posés et des offrandes que j'ai faites. Lui ne savait pas que j'avais fait ces offrandes-là, mais Dieu lui a dit, regarde cet homme-là, je vais faire de lui aussi un homme de miracle, un homme de transformation, un homme qui va prier et les choses vont se produire, un homme qui va parler. Une fois dans une église au Canada, il y a un grand pasteur qui m'a dit, ce que j'aime avec toi, c'est que quand tu pries, tu t'attends à quelque chose. Je dis, ah bon, parce que toi, quand tu pries, tu t'attends à rien. C'est dans ma tête, quoi. Que je dis. Il y a des gens, quand ils prient, ils s'attendent pas à ce que quelque chose se produise. Et quand c'est comme ça, tu ne peux rien voir se produire. Mais quand tu as prié et que tu t'attends à ce que quelque chose se produise, tu ne peux être que dans la joie. Alléluia. Tu ne peux être que dans la joie. Beaucoup de bonnes choses sont nées du rire. Israël, quand on dit Jacob, Jacob est né d'Isaac. Alléluia. Et Dieu veut que tu connaisses le pouvoir et l'autorité qui t'appartiennent. Et donc, quand tu es dans cette position de pouvoir et d'autorité, tu ne peux être que joyeux. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Dans la Bible, il y a 2 sortes de rire. Il y a le rire de joie et il y a le rire de mépris. Amen. Dieu lui-même, il rit des deux manières, de ces deux manières-là. Il y a des moments où Dieu rit parce qu'il est dans la joie. Amen. Il y a des moments où Dieu rit de la fourberie des hommes, de leur ignorance des fois, et du fait qu'ils essaient de faire des choses contre lui. Ça ne peut que le faire rire. Prenez par exemple Proverbes chapitre 1, verset 25 à 33. Proverbes. On dirait que la veillée, là, ça nous a bénis par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais en même temps, ça, il y, y a quelques frères et sœurs qui sont fatigués. Proverbe chapitre 1, verset 25. La Bible dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terre vous saisira, quand la terreur plutôt vous saisira. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Il dit, lui, il y a des moments où il rit. Quand celui qui veut marcher selon ses propres voies, qui pense qu'il a la sécurité, qui pense qu'il peut résister à Dieu. Lorsque celui-là un jour va connaître le malheur, lorsque la terreur va fondre sur lui comme une tempête, lorsqu'il va voir tout ce en quoi il a cru s'évaporer devant lui, c'est à ce moment-là que Dieu va rire. Il va dire, ha, 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 tu n'as pas dit tu es fort. Et toi? Il dit, à ce moment-là, les gens vont se tourner vers moi. Ils vont me chercher, mais ne me trouveront pas. Parce que quand tu choisis de ne pas écouter Dieu, tu choisis tes voies. Et si tu as choisi ta voie et que maintenant ta voie se retrouve être épineuse, être difficile, être dure, ce n'est pas le moment maintenant de te tourner vers Dieu parce que maintenant c'est devenu Dieu. Il faut que tu manges, que tu goûtes ce que tu as provoqué, tu as semé. C'est important d'abord. Jusqu'à ce que ta repentance soit sincère. Dieu connaît la différence. Il y a des gens en fait qui regrettent mais ne se repentent pas. Le regret et la repentance c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui regrettent d'avoir commis un crime. Pas parce que s'ils ont la possibilité de le faire, ils ne vont pas le refaire, mais tout simplement, ils regrettent qu'on les ait attrapés. Et ça leur fait mal d'être en prison. Mais en réalité, la repentance, ce n'est pas le fait de regretter qu'on t'a attrapé, ou bien le fait de te retrouver en prison. La repentance, c'est le fait de regretter même d'avoir commis l'acte, d'avoir posé l'acte. Quelles que soient les conséquences. Donc si on ne t'attrape pas, ce n'est pas grave. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils posent des actes, lorsqu'ils renient le Seigneur, lorsqu'ils rejettent le Seigneur, lorsqu'ils résistent à Dieu, ne savent pas qu'un jour, ils vont devoir se retourner vers ce même Dieu-là. Mais Dieu t'attend. Tôt ou tard, tu vas te retourner vers lui. Soit de ton vivant, soit après ta mort. Amen. Et donc, il y a le rire de joie et il y a le rire de mépris. Le rire de mépris. Le rire où tu montres en fait à la personne qui est en face de toi que ce qu'il est en train de faire, ça ne change pas ton état, ça ne change pas ta nature, ça ne te change pas. Amen. Tu peux lire aussi, par exemple, Psaume, chapitre 37. Psaume 37. Donc, quand tu entends le rire, là, mon frère, Quand Dieu rit, c'est dangereux aussi, hein. Ça peut être annonciateur de bonnes choses, comme ça peut être aussi dangereux. Toi, tu partais pas à l'église. Quand on te disait, mon frère, viens, on va à l'église, tu dis non. Vous arrêtez avec vos bondieuseries. Quand on te dit ensuite, viens, on va prier, tu dis, oh, laissez-moi, qu'est-ce que la prière a apporté dans ta vie? On te dit, mais, aie foi en Dieu, tu dis non, moi j'ai foi dans mon travail. Et maintenant, les choses deviennent difficiles. La situation même fait rire. Dès que tu as un petit problème, maintenant tu te tournes. Oh Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur. Parce que tu n'as plus en toi la force de pouvoir régler le problème. C'est maintenant que tu te tournes vers Dieu. Dieu t'attend. C'est vrai qu'il va te guérir. Il va régler la situation. Mais tu vas te repentir sincèrement d'abord. Tu vas savoir ce que c'est que de renier le Seigneur. Tu vas savoir ce que c'est que de s'éloigner de Dieu. Pour que lorsque tu t'accroches cette fois-ci-là, tu t'accroches pour de bon. Parce que sinon, c'est trop facile. Tu viens deux fois à l'église et puis le problème est réglé. Tu retournes encore dans le monde avec tes amis. N'est-ce pas? Il faut que tu subisses maintenant une véritable transformation. Alléluia. Une véritable transformation, un véritable nettoyage. Et que ton cœur soit changé, soit transformé. Là, comme ça, même après, quand les problèmes sont résolus, tu demeures toujours dans la maison du Seigneur. Alléluia. Psaume 37, versets 12 à 13. Le méchant forme des projets contre le juste et il graisse des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Amen. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Donc pourquoi toi tu vas pas rire du méchant? Quand l'ennemi t'attaque, faut rire. Il faut rire. Parce que, tu sais, des fois, il y a des situations, des attaques. C'est vrai, d'un premier abord, ça fait mal. Mais, ta nature d'enfant de Dieu, de chrétien, doit te pousser à savoir que toute attaque que tu reçois vient de l'ennemi. Et donc, il y a quelqu'un qui est derrière cette attaque-là. Et souvent, la situation te fait rire. Toi-même, tu viens, par exemple, tu te rends compte que tu as oublié la clé à l'intérieur de la maison. Ou bien, je ne sais pas, quelqu'un... Tu vois, c'est des situations vraiment bizarres. Il faut rire. Il ne faut pas permettre à l'ennemi de voler ta joie. Et de te faire sombrer dans la tristesse. Tu vois? C'est une clé, parce que tant que tu n'es pas dans la tristesse, tu peux encore prier. Tu peux encore te réjouir. Tu peux encore annoncer l'évangile. Tu vois, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc, quand tu viens annoncer une bonne nouvelle, tu ne viens pas avec une tête d'enterrement. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Donc, pour ne pas que tu puisses annoncer la bonne nouvelle, l'ennemi te garde avec une tête d'enterrement. Parce que tu peux venir avec la figure serrée. Oui, mon frère, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer. Tu n'es pas un évangéliste. Tu es un apocalypse, un prédicateur, un annonciateur des choses apocalyptiques, de malheur. Nous sommes des annonciateurs de bonnes nouvelles. Donc quand un homme qui annonce la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle-là doit lui profiter d'abord. Quand il se réveille le matin, lui-même, même si on ne lui annonce pas de bonne nouvelle, lui-même s'annonce une bonne nouvelle. Ah, gloire à Dieu, ce jour est un jour de victoire pour moi. Alléluia. Mon Dieu qui est dans le ciel a prévu énormément de bénédictions pour moi que je vais récolter aujourd'hui. Donc, quand même toi, tu viens, tu l'appelles, n'a pas besoin de chicorer pour pouvoir être dans la bonne humeur. Ou bien de café. Vous voyez les publicités à la télévision? Le gars se réveille, il est vraiment dans un état pas possible. Tant qu'il n'a pas bu son bol de café, il ne retrouve pas ses esprits. Nous, on n'a pas besoin de café pour retrouver nos esprits. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On a toujours nos esprits parce qu'on est toujours dans la joie. Amen. On est toujours, on n'a pas besoin d'aspirine pour être dans la joie. T'as pas besoin de ces choses-là. Tu as simplement besoin de mettre ta foi en l'Éternel des armées. Le psaume 59, verset 7 à 10 nous dit ceci. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations, quelle que soit leur force. C'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Amen. Tous ceux qui font du boucan, du bruit, qui hurlent comme des chiens, qui sortent, ils sortent des boîtes de nuit. Oh, la soirée, elle était bonne. Oh, mon frère, vraiment, faut qu'on refasse ça la semaine prochaine. C'était trop puissant. Dieu les regarde, il rit seulement. Il rit, il se moque d'eux, il se moque des nations parce que ils sont en train d'exceller dans l'inutile. Et voilà des gens qui font des choses inutiles qui rient. À combien plus forte raison nous qui sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous devons être dans la joie. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Mais pourquoi ta figure est serrée alors? Ou bien c'est à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure? Que tu t'es moqué de Dieu, maintenant tu viens vers Dieu. Peut-être c'est ton cas. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 1, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Comme des enfants bien-aimés. Vous savez, donc Dieu rit, il rit. Il rit lorsque les ennemis viennent contre lui. Il rit lorsqu'il y a des situations qui sont loufoques. Il rit lorsqu'il y a des situations qui sont graves. Il rit. Dieu se réjouit. Parce que, à quel moment Dieu peut être effrayé? Aucun. Quand même le diable a voulu faire son coup d'état au ciel. La pensée n'était même pas encore dans son cœur. Dieu savait déjà qu'il voulait faire un coup d'état. Vous pensez que Dieu a fait quoi? Dieu a ri. Quand Dieu voit Satan, ça lui fait rire. Le seul moment où Dieu ne rit pas, c'est quand il voit ce que Satan fait aux hommes et comment les hommes réagissent vis-à-vis de lui. C'est ça qui le met des fois, qui amène une forme de tristesse dans son cœur. Quand il voit la manière dont Dieu, dont Satan avilit les hommes, la manière dont il est lié à la drogue, à l'alcool, la manière dont il amène les hommes à se dégrader à cause de l'argent. Vous savez que par la drogue, il y a des gens pour avoir leur dose de drogue, ils sont prêts à tout faire. C'est à cause de la drogue que vous avez des trucs comme la prostitution. Et que vous avez énormément de personnes, d'hommes qui deviennent homosexuels parce que dans cet endroit-là, il y a des gens qui sont prêts à distribuer de la drogue à tout bout de champ. Donc il y en a, en fait, qui sont liés par l'argent. Et quand Dieu voit ça aussi, vraiment, ça amène de la tristesse dans son cœur. Mais rien de ce que l'ennemi peut faire contre lui ne peut l'amener dans la tristesse. Qu'est-ce que Satan peut faire contre Dieu? Rien du tout. Et donc, si toi, tu as mis ta foi en Dieu, qu'est-ce que Satan peut faire contre toi? La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? L'entourage de Dieu, l'environnement de Dieu n'est pas un environnement de tristesse, c'est un environnement de joie. On a de la joie à travailler pour l'Éternel des armées. On a de la joie à être un enfant de l'Éternel des armées. On a de la joie à appartenir au royaume de Dieu. On a de la joie à être un serviteur de Dieu. C'est pas une fatalité. Il y a des gens qui pensent que être un serviteur de Dieu, ça fait pitié. Donc, aller au ciel aussi, ça va faire pitié, quoi. Dieu a préparé des choses extraordinaires pour nous. Nous allons nous réjouir au ciel. Et nous allons d'abord commencer par nous réjouir sur terre. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Qui sait que le rire, c'est un remède? Il y a des gens, c'est maintenant, ils ont trouvé ça. Vous savez qu'en Allemagne, Il y a des classes de rire. Des stages de rire. Les gens vont et puis ils se mettent en cercle. Et puis on dit maintenant riez. Il y en a un qui fait ho 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 ho. L'autre dit ha 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 ha. Est-ce que vous savez que le rire est contagieux? Donc à force d'entendre les gens à côté de toi rire, un moment tu les vois rire. Il y a des gens qui rient comme des poules. Il y en a qui rient comme des moutons. Ça rit. Et puis finalement, ils se rendent compte que ils sont en train de déstresser. Ils évacuent le stress. C'est curatif. Et c'est pas contraire à ce que la Bible dit. Regarde dans Proverbe, chapitre 17, verset 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est dans ta Bible. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Mon Dieu. C'est-à-dire que toi, tu es vivant, mais tes os sont en train de sécher. C'est fort. Tu n'es pas encore mort, mais déjà, le processus est déjà enclenché. Un esprit abattu dessèche les os. Ça dessèche. Ça les rend secs, ça les rend durs. Quelqu'un qui est habitué à vivre dans la tristesse, il va très vite avoir de l'arthrose et de l'arthrite. Il va commencer, oui, parce qu'à force de serrer son visage, et puis de serrer ces trucs, ça, lui-même, ça va le transformer. Et puis les gens qui ont l'habitude de serrer leur visage, ils finissent même par devenir vilains. Vous avez déjà vu quelqu'un qui serre son visage et puis il est plaisant à regarder, il est attirant, il est, donc, quelqu'un qui a la figure serrée toujours, il fronce ses sourcils, il serre sa mâchoire, il concentre son cou, ses bras, tout ça, mais c'est pas bien. Quand tu es comme ça, tu éloignes les gens de toi, tu les attires pas vers toi. Or, un enfant de Dieu doit attirer les gens vers lui. Les gens ont assez de problèmes dans leur vie pour que toi tu viennes en rajouter. Toi, tu dois leur montrer la solution. Alléluia. Tu dois, un jour, ils vont te demander, mais pourquoi toi tu ris toujours comme ça? Quand t'insultes, tu ris. On te parle mal, tu ris. On te persécute, tu ris. Le matin, tu viens, on dit non, il y a une mauvaise nouvelle. On risque de renvoyer 10 personnes. Tout le monde pleure, mais toi, tu ris. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'ils vont chercher à savoir quel est ton secret. Et que tu vas leur révéler que ton secret, c'est Jésus. C'est lui qui te rend différent. C'est lui qui fait que même quand on te menace, ça te fait rire. Il y a un homme de Dieu un jour, un bandit l'a pris en joue. Il a dégainé son pistolet, il a chargé, il a tiré le chien, il a mis ça sur la tête de l'homme. C'était dans une boutique, il ne savait pas que c'était un pasteur. Et quand il a mis son pistolet, d'habitude, qu'est-ce que les gens font? Leurs yeux tournent en même temps, ils lèvent les mains, commencent à trembler. Oh, par pitié, j'ai tes enfants à la maison, j'ai une femme, j'ai... commence à pleurer, pitié, pitié, laisse-moi. Le pasteur le regarde comme ça, avec un sourire. Et le gars lui dit, mais tu n'as pas peur? Il dit, mais tu veux que j'aie peur de quoi? Qu'est-ce que tu peux me faire de plus que de tuer mon corps? Si tu tues mon corps, c'est que Dieu a permis que tu me tues. Il regarde le gars comme ça, il fronce les sourcils. Il dit, lui, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un qui ne se met pas à trembler. Et puis, excusez-moi l'expression, mais il dit qu'il ne se met pas à chier dans son froc lorsqu'il pointe une arme sur lui. Que le pasteur là lui dise, qui est celui qui lui donne cette assurance-là et cette joie-là? Et le pasteur lui dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Veux-tu lui donner ta vie aujourd'hui? Le bandit dit oui. Il a déposé son âme. Il y a des choses qui sont plus fortes que les âmes. Il y a des choses, vous savez, Rome a été pris par l'évangile. Vous savez pourquoi Rome a été pris par l'évangile? C'est vrai que c'est tragique dans un sens, mais c'est, faut être dans la joie quand on te persécute pour l'évangile. Faut rire, faut être content, parce que ce sont des galons qui sont en train de s'ajouter pour toi au ciel. Les colisées ont été faits pour la persécution des chrétiens. La Rome avait comme sport national de mettre des chrétiens dans les arènes et d'envoyer les lions pour les manger, pour les tuer. Mais en faisant ça, l'Empire romain était en train de tomber. Parce que chaque fois que les gens revenaient du stade, ils se convertissaient en masse. Et au lieu de mettre fin à l'évangile, au contraire, ça contribuait à permettre à l'évangile d'avancer. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens qu'on jetait dans l'arène, quand ils voyaient les lions venir, ils riaient. Ils étaient dans la joie. Alléluia! Le lion mange son pied et puis il chante. Les gens disent, mais c'est qui sont ces fous là? C'est qui ces gens là qui sont en train de se réjouir alors que normalement ils auraient dû avoir peur? Et il y avait comme une onction qui s'emparait de l'endroit. Une onction qui s'emparait de l'endroit. Regardez, les gens qui ont annoncé l'évangile s'étant connu des morts atroces. Pierre a été crucifié la tête en bas. Jean, il n'est pas mort. Bon, il est mort. Lui, quand même, parmi les disciples, il a vécu longtemps. M'en allait l'isoler dans une île quelque part, Patmos, une île déserte. Paul a eu des persécutions. Mais à chaque fois qu'il était persécuté, qu'est-ce qu'il faisait? Il se réjouissait. Toi, tu sais ta figure parce que tu n'as pas assez d'argent pour payer ta facture d'électricité. Je ne sais pas quel problème tu as qui fait que tu sais ta figure. En réalité, on te demande, c'est un petit problème. En tout cas, je sais que c'est un petit problème pour Dieu. Tu as quelle situation? Amen. Sois dans la joie. Beaucoup de personnes perdent leur force parce qu'ils perdent leur joie. Néhémie dit dans Néhémie chapitre 8, verset 10, la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Et je vous ai dit la dernière fois, en parlant d'Abraham, même les promesses, il faut toujours espérer dans les promesses de l'Éternel. Et être toujours dans la joie. Parce que Dieu est tellement bon. Regarde, lorsque Abraham est en train de vieillir et que Sarah est en train de vieillir et qu'il ne voyait pas l'enfant venir, il y a peut-être au niveau de Sarah une certaine tristesse qui avait commencé à envahir son cœur. Parce que quand elle avait 30 ans, elle pouvait enfanter sans problème. Elle n'avait pas d'enfant. À 40 ans, elle s'est dit, bon, c'est un peu plus risqué d'enfanter, mais c'est quand même possible. À 50 ans, là, on commence à avoir affaire, je crois, je ne sais pas si c'est 50 ans, non? Là, je la ménopause. Bon, 45 ans, bon, bref, ça dépend. Il y a des femmes qui ne vont jamais connaître la ménopause au nom de Jésus. Donc, mais bref, elle avait commencé, on a commencé à lui dire, ah, Sarah, 50 ans, tu n'as pas encore eu d'enfant, oublie ça. 60 ans, elle-même, elle avait des raisons maintenant sérieuses. Mais quand même, Dieu te dit, réjouis-toi. 70 ans, là, c'était la fête, est devenue grave. 80 ans, ah, tu n'as pas eu d'enfant à 40 ans. Tu n'en as pas eu à 50. Tu n'en as pas eu à 60. C'est pas à 80 ans, au 80e anniversaire, que tu peux encore espérer avoir un enfant. À quel âge Sarah a eu son enfant? 90 ans. À 90 ans, un homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, je te dis, l'année prochaine, à cette même période-là, tu vas avoir un enfant. Sarah, Moi, je dis, le rire, il a été positif quand même. Amen. Parce que si ce n'était pas positif, ils n'allaient pas appeler Isaac rire. C'est-à-dire que le fait de rire, c'est-à-dire si tu ne crois pas, il ne faut pas dire non, c'est faux, arrête, tu es un menteur, tu es un escroc, tu veux me tromper, tu es le 50e homme de Dieu qui me fait cette prophétie-là, l'autre, il avait dit ça il y a 20 ans, je n'ai rien vu. Mais elle a ri, elle s'est réjouie. Je pense que c'était plus de la réjouissance. Elle a vu cet enfant-là. Elle dit, moi, une vieille comme ça, là, je vais attraper un enfant. Hé, hey, vraiment, hé, hey, Seigneur. Si tu fais ça, vraiment. Et Dieu a honoré ce genre de foi-là. Ce genre de foi qui te pousse véritablement à te réjouir de quelque chose que tu n'as pas encore saisi. Amen. Tu n'as pas encore eu, mais tu t'es réjoui déjà. Tu es content. C'est une sorte de foi. Amen. Il y a des gens, quand tu leur fais une prophétie, toi-même, ça t'effraie un peu. Tu reçois effectivement de la part de Dieu. Tu reçois. Dieu te dit, par exemple, regarde cette sœur-là, je vais la bénir, je vais lui donner ci. Et puis tu dis à la sœur, vraiment, le Seigneur me met à cœur de te dire que l'année prochaine, il va te donner une maison. Automatiquement, elle commence, oh, alléluia, j'ai ma maison. Toi-même, tu l'as dit, ma sœur, pardon, fais un peu. Fais doucement, parce que, attends, va voir le miracle d'abord. Mais la réjouissance de la personne par rapport à la prophétie qui a été donnée, c'est un acte de foi. Amen. Elle se réjouit. Elle est contente. Elle est dans la joie. Elle est dans la joie. Alléluia. Et Dieu veut que tu aies cette joie-là. Il y a des gens qui calculent. Toi aussi, Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant à 50 ans, c'est à 90 ans, tu vas me donner l'enfant alors que je suis bientôt morte. Comment je vais profiter même de l'enfant? Bizarrement, il y a des gens qui ne trouvent, qui dans leur vie, ils ne trouvent que des raisons de serrer leur figure. Ils ne trouvent que des raisons de se fâcher au lieu de trouver des raisons de se réjouir. Amen. Il y a des gens qui se réjouissent des difficultés même qu'ils ont dans leur vie. Et il y a d'autres qui serrent leur figure par rapport à des bénédictions. On dit, on va te donner un enfant. Toi, tu regardes, bon, je n'ai pas eu à 40 ans. À 50 ans encore, je pourrais faire quelque chose, je n'ai pas eu. À 60 ans, je pourrais faire, mais à 90 ans, là, le lait même est fini. Hein? Les c'est maintenant, là, tu veux me donner un enfant. C'est bon même, c'est bon, je veux pas. C'est bon. Homme de Dieu, faut dire à Dieu que c'est bon, je veux pas. Mais elle n'a pas dit ça. Elle s'est réjouie. Alléluia. Elle n'a pas regardé son âge avancé. Parce qu'elle sait que si Dieu lui donne un enfant à 90 ans, Dieu va lui donner la vie pour pouvoir voir cet enfant-là grandir. Et pour pouvoir élever cet enfant. Il va lui donner la force aussi. Parce que Dieu ne fait jamais un miracle imparfait. Il fait toujours des miracles parfaits. Et s'il te donne quelque chose, il va te donner la grâce de pouvoir jouir de cette chose-là. Alléluia! La vieille mère de 90 ans, quand elle a commencé à voir son ventre sorti, Dieu a régénéré aussi son sein. Le lait a commencé à venir. C'est pas quelqu'un qui a donné à téter à Isaac. Alléluia. Elle pensait que ça allait se faire comme ça, par substitution. On dit non, on n'a pas pris une mère porteuse. Elle parlait de Agar. Non, tu vas faire un enfant avec mon mari. Maintenant, tu vas la coucher sur moi, mes genoux. Là, comme ça, ça sera mon enfant. Ça lui a créé des problèmes. Dieu est capable de te donner de tout. Il est capable de te donner ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Pas l'enfant de quelqu'un d'autre, ton enfant à toi. Amen. Et s'il est capable de te donner un enfant à 90 ans, il est capable, si l'enfant est déjà là, d'assurer le bonheur de cet enfant-là. La Bible dit que je n'ai jamais vu le juste ni l'enfant du juste mendiant son pain. Jamais. Amen. Moi, c'est une des choses déjà qui me réjouit. J'arrive en France, je vois qu'il y a des gens qui sont là depuis des années, ils sont au bord des routes, en train de tendre la main pour avoir des pièces. Il y en a qui n'ont pas de maison. Il y en a qui n'ont pas un endroit où reposer la tête. Dieu te fait la grâce de ne pas avoir à mendier, d'avoir un endroit où dormir, d'avoir de quoi te vêtir, d'avoir de quoi te déplacer. Mais malgré ça, quand même, tu sais ta figure. Tu es dans la tristesse. Tu murmures. Hey, maman, Seigneur, c'est tellement dur ce pays-là. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que tu ne dors pas dans la rue, c'est pour ça que tu dis ça. Il ne faut pas attendre de dormir au croisement entre la A86 et puis je ne sais pas quel endroit pour commencer à te réjouir de ce que Dieu fait et a fait pour toi. Dans ce ministère-là, il y a des personnes qui n'ont pas de papier. Ils sont venus dire, oh, homme de Dieu, faut prier pour moi, je vais avoir une maison. Dieu leur a donné une maison, clé de maison. Ils n'ont rien apporté comme garantie. Ils ont une maison. Et tu es là, tu peux témoigner, tu ne meurs pas de faim. Il y en a même qui sont très en forme. Ils n'arrêtent pas de grossir, mais ils se plaignent quand même. Réjouis-toi. Sois dans la joie. Pour son voisin, dis-lui, réjouis-toi. Sarah était en train de vieillir. Et à 90 ans, on lui dit, tu vas avoir un enfant l'année prochaine. Elle aurait pu vraiment encore se plaindre. Eh Seigneur, à 90 ans, mes genoux me font mal. Mes hanches me font mal. Je ne suis plus en forme. Moi, je n'ai pas la force. Qui va se réveiller la nuit pour donner à téter à l'enfant? Qui va laver l'enfant? Qui va faire ceci? Il y en a qui sont toujours comme ça. Mais elle s'est plutôt réjouie de la nouvelle. Elle a ri de ce que vraiment Dieu se soit souvenu d'elle. Amen. Alléluia. Amen. Sans penser à tous ces agrégats, à toutes ces choses-là que l'ennemi peut venir mettre dans ta tête pour pouvoir freiner ton miracle. Freinez ta bénédiction. Vous savez jusqu'à quel âge elle a vécu? 127 ans. Donc Isaac a grandi devant elle. Quand elle est morte, Isaac avait 37 ans. Amen. Elle a profité de son enfant. Celui-même qui a bien profité, c'est Abraham. Parce que quand elle est morte à 127 ans, lui-même Abraham, il avait 137 ans. Okay. C'est là qu'il a épousé une femme qui s'appelle Ketura. Et avec Ketura, il a eu 6 fils. Tu peux vérifier ça dans Genèse. Genèse chapitre 25, verset 1 à 2. Ah, Abraham, c'est un vieux père. Le vieux père Abraham. Et après, à 137 ans, Il s'est remarié, il a fait son deuil, il s'est marié avec une femme qui s'appelait Ketura. Avec elle, il a eu 6 fils. Et il est mort, vous savez à quel âge il est mort? À 175 ans. À 160 ans, il a vu les enfants d'Isaac. Que Isaac lui-même était âgé de 60 ans. Puis il a eu Isaac à 100 ans. Aujourd'hui, quand quelqu'un a 102 ans, 103 ans, on dit, ah, le doyen national. Et puis, mais quand on monte le doyen là, la personne se rappelle même pas de son nom, ni de sa date de naissance. Mais attends, vous avez vu Thierry Osborne ici, non? Quand elle est venue là, il tremblait. Le vieux père, il a quel âge? 80 quelqu'un, 52 ans de ministère. Il prêche, et puis il saute. Jésus! Alléluia! Quand tu es dans le Seigneur, et quand tu te réjouis dans le Seigneur, tu auras toujours la force et tu auras toujours la vigueur. Alléluia. Tu auras la force et la vigueur. Les gens qui serrent leur visage, là, ils vieillissent vite. Les gens qui sont méchants, là, ils vieillissent vite. Et souvent, c'est eux qui ont la maladie de Parkinson. Donc, observez dans votre vie. Regardez. N'avalez pas tout ce que les gens disent, mais regardez. Quand vous avez un papy qui est gentil, qui est jovial, qui aime jouer avec les enfants, ce papy-là, il perd pas la tête. Les vieux qui perdent la tête là, c'est les vieux qui n'aiment pas que les balles tombent dans leur jardin, ou bien que les enfants viennent jouer à côté d'eux, que les enfants viennent là, quittez-la, Après un certain moment, la personne commence maintenant à développer des syndromes bizarres. Il n'y a même pas d'enfant, mais elle se met à crier, quittez-la! Pourquoi? Parce que elle vit dans un système qui est dangereux pour sa tête. La méchanceté, la Bible dit que la joie, là, c'est curatif. Alléluia. C'est curatif. Hein? On va relire encore Proverbe. Proverbe 17. Les gens méchants. Il y a des maladies qui sont faites pour les méchants. Et puis pour ceux qui refusent de pardonner aux autres. Des maladies bizarres, là, comme en tout cas, il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer. Mais les maladies bizarres qui s'en prennent à tes os, qui s'en prennent à ta mémoire, à ta pensée, ce genre de choses-là. C'est des maladies qui attaquent souvent les gens qui n'aiment pas pardonner et qui sont méchants. Qui ont la haine, qui aiment se venger. C'est eux qui ont des maladies comme ça, bizarres, là. Mais Proverbe 17 nous dit, à partir du verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Moi, j'ai observé, en tout cas, j'ai vu, hein, quand vous voyez les racistes là, ce sont des gens qui vieillissent mal. Et puis, ces temps-ci là, c'est difficile pour eux. Parce que même s'il a vu un seul noir, il va penser que il est envahi de noir. Quand il les entend parler, mais ils arrivent chez nous, ils nous envahissent. Ils sont à tous les coins, ils crachent partout. Oh, vraiment. Donc le gars même, il a peur de sortir de chez lui. C'est dommage. Parce que toi-même, tu te fais du mal. Par des pensées bizarres. Sois dans la joie. Sois dans le bonheur. Réjouis-toi toujours. Même quand tu parles à un païen, il faut te réjouir. Qu'un jour, celui-là va donner sa vie à Jésus. Même quand il blasphème, quand il dit des choses, faut pas tomber dans son jeu. Réjouis-toi. Parce que même si lui n'est pas sauvé, au moins toi, tu es sauvé. C'est une bonne raison de te réjouir. Amen. Se réjouir fait partie du rire. Satan veut voler ta joie, mais regarde ce que Dieu dit. Philippiens chapitre 4, verset 4. Tu vas voir ce que Dieu dit. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dis à ton voisin, réjouis-toi. Je le répète. Réjouis-toi. Tu vois? Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Toujours. Regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. De temps en temps, il faut lire ta Bible. Tu dois même lire ta Bible souvent parce que tu vas voir des choses très intéressantes. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. 5, 16. Là, on a qu'est-ce que la Bible dit ici? Tu vois? Soyez toujours joyeux. C'est un commandement. On dirait qu'il y a des églises, eux, ils ont barré ça. Ou bien ils ont effacé ça dans leur Bible. Là-bas, on dit non, quand tu ris trop là, tu es charnel. C'est les charnels qui sourient. Il ne faut pas sourire. Une fois, je suis allé à un mariage. Je n'ai pas dit le nom, bon. Je peux dire le nom quand même. C'est une église baptiste, mais une église baptiste spéciale. Là-bas, les pasteurs sont formés à serrer leur figure. Ils sont très sérieux. Eux sont des gens spirituels. Et dans l'église là, quand tu cours, c'est comme un péché parce que tu ne dois pas courir. Tu dois toujours avoir une démarche cadencée, le visage serré. Parce que si tu cours, ça ne fait pas bien. Donc, une fois, le pasteur même était pressé, le pasteur principal. Il dit à son assistant, Vite, envoie ma Bible, envoie ma Bible. Et puis l'assistant marche comme ça. Il attrape la Bible, il marche. Il dit, mais dépêche-toi là. Mais le gars ne peut pas se dépêcher. Parce que s'il se met à courir, peut-être le pasteur va le mettre sous discipline parce qu'il a couru. Donc tu vois des gens qui viennent au mariage. Ils se sont habillés en noir. Costume noir, cravate noire. C'est bizarre, hein? Et puis, eux chez eux, tu n'as pas le droit, les femmes n'ont pas le droit de se maquiller. Elles doivent porter le foulard tous les jours. Elles n'ont pas le droit de mettre des boucles d'oreilles. On dit non, faut pas mettre des boucles d'oreilles parce que les hommes aussi n'ont même pas le droit de porter leur alliance. Ils n'ont pas le droit d'avoir des bijoux. On dit tout ça là, c'est des choses matérielles, c'est des choses charnelles. Quand j'étais assis au mariage, j'avais l'impression d'être un funérail. Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux, à plus forte raison à un mariage. » Amen. Au verset 15, il dit, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Et dit, « Soyez toujours joyeux. » Priez sans cesse. Amen. Dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Maintenant, moi, je te pose la question, quand? Et toi, tu me réponds? Quand? Quand? Quand on marche sur ton pied? Quand on t'insulte? Quand on te persécute? Tu dois toujours être joyeux. Amen. Devant la famine, quand tu as faim, là, c'est difficile, hein. Mais même quand tu as faim, tu dois te réjouir. Regarde dans Habacuc, chapitre 3, verset 17. Celui qui a dit, la joie du Seigneur est ma force. Habacuc. C'est dans l'Ancien Testament. Tu sais ça, hein? Bon, attends, moi, je vais. C'est un prophète mineur. Ça te fait survoler ta Bible, là. Il y a des livres que tu vas découvrir. Tu vas voir Amos, Joël, Miché. Hé, il y a un gars qui s'appelle Miché, Nahum. Et puis Habacuc. Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 19. Il dit, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Amen. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Tu vois? C'est là ils ont tiré les paroles de la chanson « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Amen. Quelle que soit la situation, même s'il n'y a plus de bœufs dans les pâturages, il n'y a plus à manger, il n'y a plus d'olives, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de figues. Tout ça, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Alléluia. Pendant qu'on est dans Habacuc, on va lire en même temps le passage où il dit « La joie de l'Éternel est ma force. » Ah non, c'est dans Néhémie. Mais Habacuc aussi a dit ça, mais je ne me rappelle pas la référence. Amen. Oh, pardon. 3.19. Voilà, Habacuc 3.19, il dit, « Oui, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. » Non, mais il dit, « La joie de l'Éternel est ma force. » Amen. Luc, chapitre 6, verset 22 à 23. Tu dois te réjouir quand? Toujours. Va dans Luc. Va dans Luc. Luc chapitre 6 plutôt, versets 22 à 23. Ça, Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Et l'Évangile. Donc, après Matthieu, voilà. Marc, Luc, avant Jean. Luc 6, 22, 23. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme une infâme, comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Amen. Le jour où on va vous rejeter, où on va vous insulter, où on va vous haïr, où on va vous mépriser à cause de votre foi, la Bible dit réjouissez-vous. Et la Bible dit encore tressaillez d'allégresse. Ça veut dire quoi? Faut se réjouir même. Soyez content. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que tu m'as jugé digne de partager les sentiments qu'ont partagé tes serviteurs avant moi. Amen. On continue dans la souffrance. C'est dans Colossiens. Colossiens, chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Amen. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Amen. Même quand tu passes par le feu, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 14. 1 Pierre 4, verset 12 à 14. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose en vous. Amen. Amen. Il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Faut pas que tu souffres parce que tu allais te mêler des affaires des gens. Faut pas souffrir parce que tu as volé. Faut pas souffrir parce que tu as menti. Faut pas souffrir parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Amen. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alléluia. Si c'est à cause du fait que tu es chrétien que tu souffres, mais rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Maintenant, quelles sont ces souffrances-là? Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas avoir d'amant. Tu ne peux pas avoir de vivre dans des situations bizarres. Tu ne peux pas te permettre de voler ou bien de mentir. Tu ne peux pas te permettre de participer à une escroquerie. Tu ne peux pas te permettre de détourner de l'argent. Tu ne peux pas te permettre d'être malhonnête. Et pour certains, c'est une souffrance, mais gloire à Dieu, c'est une bonne souffrance. Réjouis-toi de cela. Si tes collègues ont eu chacun 50 euros que toi, tu n'as rien eu, c'est une souffrance, mais réjouis-toi parce que tu es en train d'accumuler des récompenses au ciel. Si tu souffres parce que tu es chrétien, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me réjouis. Ta joie et ton rire vont déstabiliser ton ennemi et tes ennemis. Amen. Tout ce que le diable cherche, c'est de te voler ta joie. Il veut te voler ta joie. Et si tu lui donnes cette joie-là trop facilement, il aura gagné trop facilement. Amen. Psaume chapitre 9, verset 3 nous dit, « Je ferai de toi le sujet de ma joie. » Dans le psaume 100, verset 2, la Bible dit, « Servez l'Éternel avec joie. » Amen. Dans le psaume 122, verset 1, il dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Il y a une chanson même qui dit ça aussi. « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ensuite, on dit, une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Alléluia, je suis dans la joie quand on me dit. Vous chantez ça comme une joie. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison. Alléluia. Faut être dans la joie. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on le serve avec allégresse, avec joie. Avec joie. Avec allégresse, avec joie. Qu'elle constamment le sourire sur tes lèvres. Parce que tu es un enfant de l'Éternel des armées. Qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Qui a le dernier mot? C'est lui qui a le dernier mot. Le pasteur, il a arrêté, le gars, il a le pistolet, il tient ça sur sa tête. Il dit, toi, tu vas mourir aujourd'hui. Le pasteur dit, si Dieu le permet. Mais si Dieu permet que je meure, mais c'est que c'est mon jour arrivé. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais arrêter de vivre sur cette terre-là. Je vais aller au ciel. Ou bien toi, tu as peur de mourir. Hein? Moi, honnêtement, moi, je ne comprends pas les gens qui ont peur de mourir. J'ai l'air bizarre pour vous. Moi, en tout cas, moi, je ne sais pas. Vraiment, moi, je comprends. Quand je n'ai jamais pleuré un funérailles, et je ne peux pas faire exprès, je ne vais pas me pincer quelque part pour aller mettre un peu de Vix ou bien de sel. Tu vois les sels gros grains là. Les sels gros grains, tu mets ça dans tes yeux. Tes larmes vont couler comme ça. Il y a des gens qui font ça. Et chez nous, on a des peuples même, ils n'ont même pas besoin d'être concernés par le funérail. Il suffit qu'on dise que quelqu'un est mort, le gars il s'arrête comme ça pendant quelques secondes, et puis maintenant, il rentre dans une tristesse là. Il y a des, oui, ben, vous savez qu'il y a des gens qu'on appelle les pleureurs. Quand tu organises des funérailles, tu loues un groupe de pleureurs, ils viennent en car. À 1 km du village, eux-mêmes sont en train de danser, de chanter dans le car. Maintenant, quand ils doivent arriver là, le chauffeur l'a dit, bon, les funérailles là, c'est devant, hein. Donc, tout de suite, il y a un silence dans le car. Après ça, maintenant, il commence. Maintenant, quand ils arrivent maintenant à l'endroit, parce que s'ils pleurent bien, on va leur donner de l'argent. À ce moment-là, on ouvre les portes du car, là. Il y en a qui sortent. Ils savent même pas. Une fois, il y a un gars qui était dans un groupe comme ça. Lui, il arrive, il commence à courir, alors que dans le village, il y a un côté où on faisait le mariage. De l'autre côté, on faisait le funérail. Donc, il rentre, il commence à crier, il pleure, il rentre dans le mariage des gens, il pleure. On dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Lui, il est venu pleurer. On dit, non. Le funérail, là, c'est là-bas. Donc, donc, toi, tu n'as pas assez pleuré dans ta vie. On te paye pour pleurer. Tu cherches des occasions de pleurer. C'est grave. C'est grave. Réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi. Est-ce qu'on peut chanter un peu pour la gloire de notre Dieu? Réjouis-toi. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tu vas prendre un engagement aujourd'hui. Tu vas prendre l'engagement de ne plus avoir un visage triste. De ne plus avoir un visage abattu, un esprit abattu. Parce que la Bible dit que l'esprit abattu dessèche les os. Amen. Tu te dis, mais quel rapport ça a à voir entre mon visage et puis mes os? Mais c'est un rapport important. Arrête de cirer ton visage. Arrête de froisser ta figure. Élève la voix vers ton Dieu, prie ton Dieu ce soir. Si tu as besoin d'aide, dis-lui, Seigneur, je choisis dorénavant de vivre dans la réjouissance. Je choisis dorénavant de vivre dans le bonheur. et de manifester la joie. Que toute forme de tristesse s'éloigne de ma vie. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, tu seras libéré de l'esprit de tristesse. Il y a un esprit de tristesse dont tu seras libéré ce soir. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Prie ton Dieu. C'est un choix. Beaucoup de choses que nous expérimentons sont un choix. Choisis de te réjouir. Choisis d'être dans la joie. Je choisis d'être dans la joie. Je choisis de me réjouir. Quelle que soit la situation que je vis ou que je traverse, j'ai confiance en l'Éternel des armées. Et j'ai confiance dans mon Dieu. Et je crois qu'il me sortira de la situation. C'est la raison pour laquelle je me réjouis. Je me réjouirai en face de l'adversité. Je me réjouirai en face de la persécution. Je me réjouirai en face du tourment. Je me réjouirai en face de la faim. Je me réjouirai en face de mes ennemis. Je me réjouirai. Et je ne laisserai pas l'ennemi voler ma joie. Je ne laisserai pas l'ennemi voler ma joie. Dit cela dit, Satan, tu ne peux pas voler ma joie. Satan, tu ne peux pas voler ma joie. Je refuse de marcher dans la tristesse. Je refuse d'avoir le visage et l'esprit abattu. À partir d'aujourd'hui, je me réjouirai de toute situation, de toute situation. Et la joie sera mon partage. Plus jamais, plus jamais, je ne te laisserai voler ma joie. Parce que la joie de l'Éternel est ma force. La joie de Dieu est ma force. Et aujourd'hui, je reçois cette joie et je marche dans cette joie au nom de Jésus. Les chorifous, venez, non? La joie, la joie. À tout le monde.
à tout le monde, 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 à tout le monde,
la joie de Jésus,
à tout le monde,
la joie de Jésus,
à tout le monde,
la joie de Jésus,
à tout le monde,
la paix de Jésus. À tout le monde, de Jésus,
à tout le monde,
la paix de Jésus,
à tout le monde,
la paix de Jésus,
à tout le monde,
que dit la paix,
à tout le monde,
la paix,
à tout le monde, 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 à tout le monde.
La joie du Seigneur est ma force.
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.
Ma joie du Seigneur est ma
force. Alléluia.
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ma force. La joie est dans la joie du Seigneur.
La joie du Seigneur
est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur.
Libéré,
libéré.
Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux vraiment pousser des cris de joie pour la gloire de ton Dieu? Donc, plus jamais je ne veux voir ta figure serrée. On est d'accord? On est d'accord? Il faut que ce soit un endroit où tout le monde est dans la joie. Où tout le monde a le sourire. Parce qu'il est bon. Oh, il dit, je me réjouis d'être dans la présence de mon Dieu. Amen. Je suis dans la joie de venir dans la maison de l'Éternel. Parce que tu ouvres la porte à la solution. Parce qu'il y a des personnes, pendant qu'on prêche, ils pensent seulement au problème. Mais si tu penses seulement au problème, à quel moment la solution va venir? Amen. Quand tu viens, sois dans la joie parce que tu es dans un endroit où ton problème peut trouver une solution.
Amen.
Et il faut que notre lieu de culte, notre endroit où on se réunit pour pouvoir adorer Dieu, soit un endroit de solution et non un endroit de problème. Alléluia. Je consacre ce ministère comme étant un endroit de solution, un endroit de résultat, un endroit de miracle, un endroit de guérison, un endroit de libération. Alléluia. Au nom de Jésus. Et nous sommes des vainqueurs. Et un vainqueur n'a pas la figure serrée. Un vainqueur est toujours joyeux. Un vainqueur est toujours dans la joie. Un vainqueur se réjouit lorsqu'il voit son adversaire. Parce qu'il sait que ça va se terminer encore par une victoire. Amen. Quand il voit un adversaire, dit, ah, gloire à Dieu, une autre victoire. Mais quand elle a l'habitude de perdre, quand elle voit l'adversaire, il dit, encore, ils viennent s'acharner sur moi, je suis encore foutu. Mais quand il a l'habitude d'avoir la victoire, quand il voit un adversaire, il dit, gloire à Dieu, parce que j'aurai encore la victoire. Alléluia. J'ai la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'asseoir 2 minutes. Et après, on va être conduit encore. Si Dieu inspire le groupe musical, on va faire le show. Ça provoque l'onction. Ça provoque l'onction. Quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, c'est des moments formidables. Et moi, vraiment, je prie pour le groupe musical régulièrement et je veux, en tout cas, il faut que rien ne leur manque. Bien, bientôt, ils seront rejoints par un batteur et puis un bassiste pour que ça groove. Par la grâce de Dieu, on se prépare. On sait que... Moi, je me réjouis. Quand je viens ici, là, je ne suis pas triste. Hein? Je me réjouis. Je sais que ce n'est pas, ça ne ressemble pas à mon ministère, mais je me réjouis. Je me réjouis. La Bible dit, apprenez à respecter aussi les commencements. Réjouissez-vous en toutes choses. Les petits commencements, il faut se réjouir. Parce que c'est en ce moment-là que les liens vraiment sérieux sont en train de se tisser avec des personnes qui sont un peu les piliers de l'œuvre, les piliers du ministère. Si au moment où l'œuvre commence, vous commencez dans une salle de 500 personnes, tout le monde est étranger dans l'église. Il faut qu'il y ait des anciens. Il faut qu'il y ait des diacres. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent dire, moi j'étais là au début, au commencement. Quand on était dans les sous-sols là, à Paris, on était là. J'étais là. Je fais partie de ceux qui ont cru au ministère. Amen. Aujourd'hui, on est en plein centre de Paris, dans une salle de 10 000 places qui s'appelle le Dôme des Vainqueurs. Alléluia. Mais c'est pas, ça a commencé quelque part. J'étais là ce jour-là. Alléluia. Donc, moi, il faut se réjouissons-nous. Amen. Qu'on se réjouisse de toute situation que le Seigneur nous permet vraiment d'avoir. Et j'ai des personnes qui sont à côté de moi, ils savent. Ça dit d'un premier abord, quand tu reçois la nouvelle, ça peut te faire un pincement au cœur. Ça peut te faire mal. Tu peux dire non, je vais réagir comme ça. Non, je vais faire ci. Mais après, quand tu regardes la situation, pourquoi ne pas te réjouir? Parce que quand tu ris de ça, ça passe plus facilement. Mais quand tu mets ça dans ton cœur et que tu dis bon, voilà, ça là, je vais régler ça. Ça fait un petit bagage que tu viens de rajouter. Imagine que chaque jour, tu prends 2 ou 3 petits bagages. Même si ça ne pèse que 5 grammes ou bien 1 gramme. Mais chaque jour, tu mets 3 grammes de bagages, de revanche, de haine dans ton cœur. Ton cœur lui-même pèse combien de kilos? Et tu mets, à chaque fois, tu mets un petit caillou d'un gramme dedans. Chaque jour, tu mets au moins 3 petits cailloux. Avant la fin de l'année, il y a 365 jours. Faut multiplier 365 par 3 déjà. Ça fait plus de 1000 et quelques cailloux que tu as mis dans ton cœur. Ton cœur va exploser. Ça va exploser. Si tu te fâches parce qu'un tel t'a regardé mal, ça te fait mal parce qu'un tel t'a mal répondu. Lui, là, il n'a pas voulu t'aider. Lui, là, il n'a pas voulu. On va voir. Toi, on va voir. Toi, on va voir. Ce genre de personnes. Mais attends, tu vas voir. Tu vas voir avec la terre tout entière, quoi. Tu es en guerre contre le monde, quoi. Et puis, tu es en guerre contre le monde. Tu peux t'en sortir. Impossible. Sois dans la joie. Réjouis-toi. Alléluia. On va prendre nos offrandes. On va prendre nos offrandes ce soir. Que nous allons apporter avec joie dans la maison du Seigneur. Là, c'est le moment où il faut te réjouir le plus. Amen. Normalement, quand je dis on va faire une offrande, tout le monde doit dire Alléluia. Amen. Tout le monde doit dire oh, gloire à Dieu, je vais faire une offrande. Il doit tressailler d'allégresse. Offrande, offrande. Ouh. Parce que c'est le moment où tu reçois aussi ta bénédiction. Alléluia. Alléluia, une offrande. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur.
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.